Don't push yourself.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Le quorum étant atteint, un certain nombre de collègues vont nous rejoindre et accusent un petit retard. Je pense en particulier à M. Bocara et à M. Segala. Et ce faisant, je vous propose donc de reporter jusqu'à son arrivée les dossiers relatifs à la Commission des Finances qui seront présentés par M. Segala. Je vous prie de bien vouloir éteindre vos portables si vous pouvez. Et donc nous allons ouvrir la séance. Je vais commencer par l'appel. Donc M. Giquel présent, M. Turano
présent.
Madame Magne est absente, a donné son pouvoir au maire. M. Gaillac
présent.
Madame Le Haut-Posmentier
présente.
M. Segala donc va nous rejoindre et en attendant a donné son pouvoir à Delphine Herbert. Madame Herbert. M. Drouvillier va nous rejoindre. Madame Certain.
Présent.
M. Cron.
Présent.
M. Bocara aura donc du retard et en attendant a donné son pouvoir à M. Cron. Madame Minard.
Présente.
M. Vandenacker a donné son pouvoir à Madame Gonnet. Madame Menou.
Présent.
M. Benoît.
Présent.
Monsieur Miroudot.
Présent.
Monsieur Mazur va nous rejoindre, vraisemblablement. Voilà, monsieur Drouillet. Madame Lié. Madame Gonnet, donc.
Présente.
Madame Longuève.
Présent.
Madame Girard.
Présent.
Monsieur Matobo.
Présent.
Madame Guéguen-Ross est absente, a donné son pouvoir à Madame Certain. Monsieur Le Guil.
Présent.
Madame Yayaoui est absente, a donné son pouvoir à M. Turano. M. Trabelsi est également absent, a donné son pouvoir à M. Gaillac. M. Scaglioso.
Présent.
Madame Margot.
Présent.
Madame Campos-Bretillon est absente. M. Tourchic est absent. Madame Houtin est absente. M. Rambaud.
Présent.
Madame Denis devrait nous rejoindre. M. Martins Pereira. Je devrais nous rejoindre, je n'ai pas d'informations particulières. Monsieur Rodriguez Lacan devrait aussi nous rejoindre, mais je ne dispose pas d'informations. Monsieur Sherman, je ne dispose pas d'informations. Madame Gruber.
Présent.
Madame Elarty.
Présent.
Madame Yango.
Présent.
Voilà, donc, pour l'appel. Je désigne le secrétaire de séance, en l'occurrence dans l'ordre du tableau, il s'agit de M. Gaillac. Et on notera l'arrivée de M. Bocara. Donc M. Gaillac accepte cette charge de secrétaire de séance. J'en viens donc à l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin dernier. Est-ce qu'elle appelle des observations, des remarques de votre part ? Madame Elarty.
Merci, monsieur le maire. Juste sur le PV, moi j'ai juste une demande de précision concernant les tarifs. De mémoire, les Charentonnais payent moins que les extérieurs. C'est bien ça. Or, au niveau du PV, il est indiqué que pour l'activité tous au club, il est indiqué de 1 à 2 euros pour les Charentonnais et de 2 à 4 euros pour les extérieurs. Partant de ce principe, il y a quand même des Charentonnais qui vont payer pareil que les extérieurs. Donc j'aimerais bien avoir une petite précision par rapport à ça. Sinon, nous n'avons pas d'observation particulière par rapport au PV. Merci.
Bien, on refera le point sur le PV. À moins que M. Bocara ait un élément de réponse. Sinon... Alors, Monsieur Bocara.
Excusez-moi, en retard, je n'ai pas tout à fait saisi le sens de la question. Il y a des tarifs locaux et des tarifs extérieurs.
C'est ça le sujet? Et quel est votre souci?
Oui.
Alors, Madame Elarty a la parole.
Merci. De mémoire, les Charentonnais payent moins que les extérieurs. On est bien d'accord. Or, dans le PV, il est indiqué que les tarifs pour l'activité tous au club, il est indiqué, en page 15, les Charentonnais payent de 1 à 2 euros et les extérieurs de 2 à 4 euros. Par conséquent, on peut considérer qu'il y a des Charentonnais qui payent le même tarif que les extérieurs. Je voulais juste une petite précision par rapport à ça. Merci. Et vous n'avez pas besoin de lever la main ou de...
Monsieur Bocara.
Détendez-vous et j'ai fait ce que je veux. Ça, c'est pour démarrer. Ensuite, lisez mieux les choses. Vous avez des tarifs dissociés. 1 à 2 euros, pour, c'est des activités différentes. D'accord? Et 2 et 4 euros, c'est des activités en parallèle et qui sont facturées supérieurement pour les extérieurs. C'est tout, très aussi bien. Simplement.
Madame Elarty.
Alors, je reprends le PV, excusez-moi, ou alors c'est mal formulé. Hein. Les tarifs s'échelonnent de 1 à 2 euros pour les locaux et de 2 à 4 euros pour les extérieurs, en sachant que pour les activités payantes, un encadrement avec le brevet d'État est mis en œuvre. D'où l'impérieuse nécessité que cette activité n'ait malheureusement pas la possibilité d'être offerte. Donc ce que vous dites ne correspond pas du tout à ça. Alors c'est mal formulé. Excusez-moi, c'est pour ça que je demande une précision.
Donc la précision vous a été apportée, c'est simple. Il y a donc des activités au sein de l'opération Tous au Club qui sont tarifées et d'autres qui sont proposées à titre gracieux aux populations, quelles qu'elles soient. Pour la partie tarifée, pour les Charentonnais, l'application du tarif selon la catégorie de l'activité qui est proposée, soit elle est tarifée 1 euro, soit elle est tarifée 2 euros pour les Charentonnais. S'agissant des extérieurs qui pratiqueraient la même activité, la tarification sera de 2 euros pour une activité quelconque ou pour 4 euros pour une autre activité. Voilà, donc en fait, il faut pouvoir comparer 1 euro pour les Charentonnais pour une activité donnée, alors qu'en parallèle, les extérieurs règlent 2 euros. Sur une seconde activité, les Charentonnais règlent 2 euros et les extérieurs régleront 4 euros ou 3 euros. Voilà, donc si ce point-là peut être reprécisé de manière claire dans ce compte-rendu de cette séance, qui viendra ainsi compléter votre connaissance de l'opération Tous au Club et des tarifs qui y sont pratiqués, je crois que ça clarifie les choses. Voilà, ainsi donc le procès-verbal est adopté donc pour la séance du 25 juin. Et cette séance donc viendra compléter ce qui avait été écrit. À présent, j'en viens aux décisions du maire en application du Code général des collectivités territoriales 21-22-22. En l'occurrence, nous avons à la fois des sujets. Qui ont trait au marché de services, au marché de travaux, mais aussi à des décisions plus classiques d'activité. Nous avons en premier point l'installation d'une pompe à chaleur sur la toiture de l'école Aristide Briand, liée donc aux opérations de travaux qui ont été conduites au cours de l'été et au cours de la période précédant l'été. La signature par ailleurs d'une convention relative la participation de la Croix-Rouge française au dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de la fête de la musique qui s'est déroulée en juin, la signature d'un contrat de concession avec l'harmonie Créteil pour les animations dans le cadre du kiosque sur la place Briand ou sous la voûte du commandant Delmas, comme ce fut le cas samedi dernier en raison des intempéries et qui a rencontré un vif succès. Par conséquent, je le dis ici, à nos collaborateurs, je crois que l'alternance kiosque et voûte du commandant Delmas doit être dorénavant privilégiée. Donc l'harmonie de Vincennes, je viens de l'évoquer, la suppression de la régie de recettes du conservatoire de musique André Navarra à partir du 1er septembre dernier, de la même manière pour le service jeunesse, et ce en application de la mise en place de la régie unique que nous avons partagée
avec la trésorerie de Saint-Maur et la direction départementale des finances publiques. C'est aussi le cas de la petite enfance et la modification de l'acte constitutif de la régie de recettes pour les participations familiales pour le service enfance. Nous avons par ailleurs une convention d'occupation en résidence autonomie Jeanne d'Albret pour des étudiants ou des jeunes travailleurs qui assurent les missions de gardiennage et puis de vigilance à l'égard des occupants, des locataires. Pour l'un d'entre eux, c'est une femme en l'occurrence, et il y a une même disposition pour un étudiant par ailleurs qui assurera ces mêmes fonctions au sein de cette résidence. Nous avons parmi les décisions le relèvement de la redevance des studios de la résidence autonomie pour un montant de 573 euros mensuels, l'acceptation d'un don d'un buste Marianne qui a été offert à la ville par un couple de Charentonnais que nous saluons ici en conseil municipal. Au titre du fonds vert, je souligne que l'État, parmi les quelques subventions qui lui restent à distribuer, va octroyer ou a déjà octroyé des subventions au titre donc des aides aux maires bâtisseurs, ce que nous sommes apparemment, puisque l'État nous reconnaît dans cette mission. Au total, il y a 3 programmes de logement qui sont concernés pour un total d'un peu moins de 90 logements, dont 51 logements sociaux qui, effectivement, seront proposés dans le cadre de ces mêmes opérations. Nous avons, au titre de la nomenclature comptable M57, la possibilité de fongibilité des crédits sur la partie investissement auquel nous opérons et nous portons ici à connaissance du conseil municipal. Un dispositif équipement sportif de proximité émanant de la région Île-de-France au titre d'une demande de subvention pour l'aménagement de la partie équipement sportif de proximité au sein du parc de Conflans, espace de musculation entre autres choses, et donc nous avons sollicité une subvention auprès de la région pour un montant équivalent à un peu moins de 30 000 euros. Signature par ailleurs d'un contrat de prestation de service pour un intervenant artistique de chant pour l'année 2025-2026 et dans le cadre des ateliers socio-culturels. La signature d'un contrat de prestation de service avec l'association CRIBE 1, là aussi dans le cadre de des activités socio-culturelles. Signature d'un contrat de prestation de service avec l'association Verne, là aussi, pour l'atelier socio-culturel guitare. Le précédent concernait la batterie. Et donc, convention d'occupation, comme je venais de vous l'indiquer, c'est la seconde, au titre de la résidence autonomie Jeanne d'Albret. Concernant les marchés de services, nous avons un marché impression façonnage, et livraison du journal municipal, donc pour une durée de 12 mois reconductible à 3 reprises. L'organisation de séjours de classe de découverte pour les élèves des écoles élémentaires, c'est donc des séjours qui se sont déroulés au cours de l'été. La fourniture de livraison de denrées alimentaires pour les établissements d'accueil de la petite enfance. Donc il y a différents lots qui sont ici rappelés, à la fois les fruits et légumes, les surgelés, les produits frais, ainsi que l'épicerie, avec donc des dates de notification de ces marchés qui sont d'une durée de 12 mois et qui sont également renouvelables. Au titre des marchés de travaux, l'aménagement du square du 11 novembre, nous avons donc ajouté quelques travaux supplémentaires dans le cadre de ce bel aménagement que j'imagine vous avez toutes et tous découvert dans le quartier Villa-Bergerac qui est des carrières. Donc il y a quelques plus-values qui ont été enregistrées, également des moins-values, ce qui a conduit à un avenant légèrement supérieur à 63 000 euros sur un montant global de 525 000 euros hors taxes. au titre des, par ailleurs des travaux de ravalement et de traitement d'air de l'école Aristide Briand. Concernant le lot ventilation, électricité, gros œuvres et finition, nous avons donc enregistré un ajout de prestations, notamment de manutention de mobilier dans le cadre des travaux qui ont été réalisés, ce qui a majoré globalement le marché d'un peu moins de 30 000 euros hors taxes. Au titre des marchés de fourniture, fourniture et livraison de denrées alimentaires, toujours pour le secteur de la petite enfance, qui sont mentionnés ici avec un article du CCAP qui a été modifié par avenant donc dans le cadre de ces marchés. C'est le cas également du lot surgelé, produits frais et épicerie. Voilà. En résumé, les éléments des décisions du maire pour cette séance du conseil municipal. Est-ce que cela appelle des observations, des remarques ? Aucune. Bien, donc Monsieur Segala n'est toujours pas parmi nous, donc je reporte dans l'ordre du jour les dossiers qu'il aura à nous présenter. Si on peut prendre de ses nouvelles, c'est bien aussi. Et par conséquent, je propose à Chantal, voilà, il devrait être là, ce n'est pas Monsieur Segala, mais Monsieur Mazur. Et donc, je propose à Chantal Lehoux-Posmentier de nous présenter le dossier afférent à la résidence autonomie Jeanne d'Albret et son projet d'établissement.
Merci, Monsieur le maire. La résidence Jeanne d'Albret est construite en 1976 par la municipalité en partenariat avec le bailleur social immobilière des 3F. Elle se compose d'espaces privatifs et d'espaces communs conviviaux. Dans cet espace, il y a 4 étages d'habitation et 41 studios. La résidence bénéficie d'un environnement dynamique, marqué par une offre importante de transport et de commerce de proximité, tels que la boulangerie, la supérette et la pharmacie. Nous avons aussi le bus-service qui permet à toutes les personnes résidant dans cette résidence de pouvoir le prendre quand ils veulent, aussi bien pour aller chez le coiffeur que pour aller à la banque et divers trajets autres médicaux éventuellement. Une analyse des besoins sociaux menée en 2025 révèle une augmentation des seniors. 5656 seniors de 62 ans et plus contre 5317 en 2017. 49,2% des plus de 75 ans vivent seuls au domicile contre 45,9% en 2017. Environ 8% des plus de 75 ans vivent sous le seuil de pauvreté contre 5% en 2017. Ces données soulignent l'importance d'adapter l'offre d'accueil et d'accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, notamment en matière de lutte contre l'isolement et la précarité. L'établissement s'inscrit dans le respect notamment des textes suivants. Le Code général des collectivités territoriales, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Ce positionnement a permis le renouvellement de son arrêté d'autorisation de fonctionnement par le Conseil départemental le 27 février 2017 pour une durée de 15 ans. Le projet place le résident au centre du dispositif dans une logique de parcours personnalisé selon ses besoins, ses envies et ses aspirations. Il s'articule autour de plusieurs axes, comme l'accompagnement individualisé, la mobilisation du collectif, l'ouverture sur la ville, la coordination des acteurs. Rendue obligatoire, cette loi du 2 janvier 2002, donc c'est pour ça que nous faisons ce projet, qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents, a affirmé la place de la résidence comme lieu de ressources au cœur de la ville pour tous les seniors charentonnais. Préserver, stimuler et compenser tous les degrés d'autonomie, renforcer les partenariats locaux, améliorer la gestion de la résidence. La réalisation de ce projet nécessite l'approbation du conseil municipal pour une durée de 5 ans au cours duquel s'agira notamment de développer des actions culturelles et sociales pour renforcer l'attractivité et l'ouverture de la résidence, ce qui est fait actuellement d'ailleurs. Pour poursuivre l'amélioration des espaces de vie et des services proposés, renforcer la communication et la collaboration avec les acteurs locaux. En conclusion, le projet d'établissement 2025-2030 de la résidence Jeanne d'Albret s'inscrit dans une démarche d'innovation sociale et de qualité de vie pour les seniors. Il répond aux enjeux démographiques et sociaux actuels tout en s'appuyant sur un cadre juridique et solide, une philosophie est centrée sur la personne. Voilà, c'est une résidence où il fait bon vivre. Voilà, messieurs, dames.
Bien, est-ce que ce sujet appelle, ces délibérations appellent-elles des remarques, des observations ? Non, donc je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Bien, monsieur Patrick Ségala nous ayant rejoint, je propose qu'il puisse nous présenter les dossiers pour lesquels il est inscrit à l'ordre du jour, s'il en a convenance, le temps tout de même qu'il s'installe et qu'il reprenne sa respiration. Voilà, donc il y a donc le tout premier dossier qui concerne l'exonération des agents municipaux logés du rattrapage des revalorisations des loyers et charges sur la période 2020-2024. Monsieur Ségala.
Oui, merci monsieur le maire, veuillez m'excuser. En effet, dans le cadre d'un contrôle approfondi en 2025, au cours du premier trimestre 2025 plus exactement, qui a donc été exercé par notre comptable, la Direction générale des finances publiques, il a été constaté une absence de revalorisation des charges, mais également des loyers, pour tous les agents municipaux qui peuvent bénéficier d'un logement, soit par nécessité absolue de service, ou dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Quelle convention est assortie d'astreinte ? Alors, la Direction générale des finances publiques a émis une demande express de rattrapage des montants non perçus au titre des revalorisations non effectuées sur les exercices antérieurs 2020 à 2024, puisque avant s'applique la prescription quinquennale. Et donc, face à cette situation, la DGFiP a recommandé un rattrapage des sommes non perçues depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, il était important de considérer que le caractère spécifique et contraignant de l'occupation liée à la nécessité absolue de service à une astreinte, de considérer également le caractère involontaire pour chacun des agents concernés au regard de cette absence de revalorisation, et puis, je dirais surtout, les conséquences financières potentiellement lourdes pour les agents concernés. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de ne pas procéder au rattrapage des revalorisations des loyers et charges pour les périodes antérieures à l'année 2025, c'est-à-dire entre 2020 et 2024, soit 5 exercices. En revanche, un rattrapage sera appliqué pour le premier trimestre 2025 en totalité, afin de marquer la reprise effective du dispositif de revalorisation et d'assurer à côté de cette période une conformité complète aux exigences formulées par la DGFiP. Vous a été transmis, avec la note de présentation et le projet de délibération, une liste détaillée des fonctions et évidemment des logements concernés avec le montant individualisé pour avoir un total d'un peu plus de 28 000 euros, je le rappelle, rapporté à 16 agents et sur 5 exercices. Et donc, c'est sur cette base-là que nous vous demandons donc cette exonération, donc cette non-application rétroactive. Merci, Monsieur le maire.
Merci, Monsieur Sigala. Est-ce que cette délibération de régularisation appelle des observations de votre part ? Non, donc je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le point suivant sera également présenté par Patrick Sigala, justement dans le cadre du calcul et de la révision annuelle des loyers.
Oui, merci. Monsieur le maire, en effet, c'est un peu le pendant de la première délibération, c'est-à-dire d'en tirer un certain nombre d'enseignements et puis surtout de mettre en place un dispositif qui ne puisse pas nous permettre à retraiter la moindre exonération, en tout cas sur les loyers, charges et logements. Donc ce qui est important, c'est de considérer que, voilà, jusqu'à présent, ces règles de fixation et de revalorisation des loyers avait pu être arrêté à plusieurs moments, sur différentes délibérations, ce qui nous a amené à avoir un système un petit peu éclaté et de fait d'avoir un petit peu complexifié la gestion et d'avoir perdu en lisibilité. Deux exemples, les loyers et les charges n'étaient pas révisés en même temps dans le calendrier, c'était un au 1er janvier, un au 1er septembre, et les indices de référence, notamment sur cette période 2020 à 2025, mais auparavant, ont été modifiés en cours de route, et donc il est vrai que c'était un petit peu difficile de pouvoir reconstituer et de traiter tout le monde de la même manière. Donc c'est pour ça que cette délibération, non seulement elle vise à reprendre et à remplacer les anciennes délibérations, mais surtout de les réactualiser et de les regrouper en une seule, pour avoir un cadre unique, clair et durable. Donc, il est prévu que les loyers, l'ensemble des charges, donc quand je parle de charges, c'est les fluides, énergie, eau, puissent être révisés simultanément au 1er janvier de chaque année, selon des modalités cohérentes et transparentes. Première règle, les loyers indexés sur l'indice de référence des loyers, IREL, au troisième trimestre de l'année précédente, donc ça sera notre point de repère, un indice qui est publié par l'INSEE. Les charges énergétiques, une base de consommation de référence appliquée à la superficie du logement et valorisée selon un tarif payé par la ville pour ses propres consommations sur la base de la dernière facture connue au moment de l'établissement de ces montants de charges. Et les charges d'eau sur le même principe avec un forfait de consommation et un tarif publié par le CEDIF. De plus, donc là, nous avons vu le cadre et les règles sur les modalités, et c'est une innovation par rapport à ce dispositif. Nous proposons qu'il y ait chaque année une campagne de réactualisation qui permettra de répartir la juste répartition des charges d'eau. La composition familiale des agents devra être déclarée chaque année, donc réactualisée au plus près de la réalité, et toute modification devra être signalée avec une échéance avant le 15 novembre pour qu'au 1er janvier, nous soyons en capacité d'avoir une facturation tout à fait cohérente et tout à fait définitive et en tout cas indiscutable. Vous l'aurez compris, cette délibération va nous permettre de sécuriser juridiquement et financièrement et puis surtout de pouvoir assurer cette même équité entre l'ensemble des bénéficiaires. Voilà, Monsieur le maire, le contenu de cette délibération. Merci, monsieur.
Merci. Y a-t-il des remarques, des observations ? Aucune. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Dossier suivant, également rapporté par Patrick Segala.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, une délibération plus classique, qui a toujours trait à l'attribution des logements de fonction et nos deux listes donc de logements qui évoluent donc au fil du temps et comme nous l'avions vu par le passé encore la séance précédente le 25 juin dernier, cette fois-ci il s'agit d'apporter une modification sur chacune des listes. Donc sur la première liste de logements nécessité absolue de service, on notera la modification de l'adresse du logement sur le poste de directeur général des services pour le retrouver désormais au 39A rue des Bordeaux. Et puis sur la seconde liste, convention d'occupation précaire avec astreinte, suite au départ en mutation de la directrice de l'administration générale et des affaires réglementaires, donc libération et donc suppression du logement aux 3 rue de Valmy, suppression de cette liste, bien évidemment, qui voilà, n'est plus aujourd'hui dotée et en tout cas qui n'est plus permis de figurer dans cette liste. Merci, monsieur le maire.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des remarques ? Qu'une, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Passe donc à présent au dossier rapporté par Clotilde Certain.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit de céder à titre gratuit des bouteilles de plongée aux deux clubs de plongée de la ville. En effet, des bouteilles qui avaient été contrôlées et agréées en 2022, ont été stockées dans le milieu chloré et humide. Et il s'avère que ces bouteilles sont aujourd'hui inutilisables car elles se sont oxydées et corrodées et qu'un nouveau grenaillage les rendrait impropres à l'utilisation et dangereuses. De ce fait, il est proposé de céder à titre gracieux aujourd'hui des bouteilles plus récentes appartenant à la ville qui, elles, sont en très bon état et qui permettraient de remplacer ces bouteilles qui vont aller à la déchetterie et la destruction. Voilà, ce sont les deux clubs, c'est le Cercle des plongeurs de la Marne, ça concerne 8 bouteilles, et l'autre club, c'est le club subaquatique de Charenton, qui aura aussi 8 bouteilles. Donc c'est une cession à titre gratuit de bouteilles de plongée. Je vous remercie.
Merci. Y a-t-il des observations, des remarques ? Non, je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Dossier suivant sera présenté par Lorenzo Scaglioso.
Merci, monsieur le maire. Alors que la commune de Saint-Maurice a apporté sa contribution financière dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine municipale, il est conventionnellement stipulé que les publics scolaires mauriciens peuvent bénéficier de créneaux spécifiques à tarifs préférentiels pour l'organisation de séances de natation proposées par la ville de Charenton. Il est à noter que l'apprentissage de la natation auprès des scolaires par les maîtres nageurs sauveteurs de Charenton doit être formalisé par une convention entre la ville et l'éducation nationale. Et les établissements scolaires de Charenton et de Saint-Maurice relevant de 2 circonscriptions distinctes. L'accord doit donc nécessairement se traduire par 2 conventions au titre de l'année scolaire 2025-2026 qui précisent les objectifs poursuivis, les modalités d'accueil et les écoles concernées. Donc pour Charenton, il s'agit des écoles élémentaires Anatole France, Aristide Briand A et B, Desnos, Pasteur et Valmy. Et pour Saint-Maurice, il s'agit des écoles élémentaires du Centre et Gravel. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les 2 conventions annexées. Je vous remercie.
Merci. Y a-t-il des remarques, observations sur ce dossier ? Aucune. Je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Dossier suivant, Delphine Herbert.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'autoriser monsieur le maire donc à signer une convention partenariale de reprise solidaire des documents désherbés des médiathèques avec la société Amaréal. En effet, la mission d'une bibliothèque publique est de constituer une collection vivante et cohérente, ce qui implique des acquisitions régulières, mais aussi le retrait des documents devenus obsolètes. Donc ce désherbage est une pratique normale de gestion des collections. À Charenton, les ouvrages retirés sont d'abord proposés à la vente au public lors de braderies par les médiathèques. Depuis 2020, les livres invendus sont cédés à une société Recyclive. Donc il vous est proposé ce soir de changer de société pour re-signer une nouvelle convention avec la société Amaréal, qui présente plusieurs avantages, notamment de reprendre non seulement les livres, mais également les partitions et les CD, de fournir du matériel de conditionnement, de reverser 10% de la vente à une association choisie par la ville, de reverser encore un autre pourcentage, à savoir 5% à une autre association caritative. Les livres invendus sont donnés et tous recyclés en Europe et ils recrutent des personnes éloignées de l'emploi. Ainsi, cette convention sera, vous l'avez donc en annexe, et sera en partenariat avec l'association La Bibliothèque Sonore pour l'association locale et l'association Bibliothèque sans frontières pour la deuxième association.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des remarques ? Non, je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Dossier suivant, Muriel Minard.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Il s'agit de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer une convention avec la région Île-de-France relative à l'attribution de tickets loisirs. En effet, depuis plusieurs années, la ville de Charenton-le-Pont bénéficie de ce dispositif. Et ces tickets, désormais numériques, d'une valeur de 6 euros l'unité, sont utilisables par les jeunes franciliens de 11 à 17 ans sur les îles de loisirs de la région Île-de-France. Nos jeunes adolescents de l'accueil de loisirs du service jeunesse ont ainsi pu en bénéficier dès cet été, à travers différentes activités, dont la baignade. 800 tickets loisirs utilisables pour l'année 2025-2026 étant mis à notre disposition. Ce dispositif est soumis à conventionnement, ce qui définit des engagements réciproques et les conditions d'utilisation des tickets loisirs numériques. Il vous est donc ainsi demandé de valider cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous remercie.
Merci. Est-ce que ce point appelle des remarques, des observations ? Non, je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Dossier suivant sera présenté par Benoît Gaillac. C'est le dossier qui te revient, je ne peux pas te dire, je ne trouve pas. Voilà, bon, alors je vais... Voilà. Donc, Monsieur Gaillac, c'est bien lui qui s'exprime sur le sujet.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit pour Monsieur le maire de signer une convention avec le territoire permettant la cartographie de la ville au sein du territoire et en particulier la cartographie des réseaux qui se situent en souterrain et qui permettra du coup lors de travaux et en particulier pour les promoteurs mais aussi pour d'autres travaux et des interventions de pouvoir faire et la déclaration de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux et d'éviter du coup un certain nombre de péripéties et de problèmes liés aux ouvrages et en particulier lorsqu'on touche un réseau et en particulier lorsqu'il y a du gaz ou de l'électricité. L'option qui a été retenue au passage est une option qui permet de passer en 3D et donc d'avoir une vision encore plus réaliste des réseaux qui se trouvent en souterrain. Merci Monsieur le maire.
Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Non, je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le dossier suivant sera présenté par Pascal Turano.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'approuver, autoriser, de vous autoriser d'attribuer une garantie d'emprunt au bailleur social Séquence dans le cadre d'une opération en VEFA, donc vente en l'état futur d'achèvement, de l'immeuble du 12 rue Marius Delcher. Dans le cadre d'une acquisition en VEFA, au 12 rue Marius Delcher, le bailleur Séquence a sollicité la ville afin d'obtenir une garantie d'emprunt pour un montant total de 13 422 259 euros auprès de la Caisse de dépôt et consignation. L'opération comprendra un programme de 71 logements, dont 32 en locatifs sociaux et 39 en locatifs intermédiaires. En contrepartie de la garantie d'emprunt accordée, la ville aura un droit de désignation d'une durée de 40 ans sur 6 logements sociaux et 7 logements intermédiaires. Les droits de réservation pour la ville portant uniquement sur ces logements sociaux seront ensuite intégrés au nouveau système de gestion en flux mis en application depuis le 1er janvier 2024. Il nous est donc demandé d'approuver cette garantie d'emprunt sollicitée par le bailleur Séquence.
Merci. Y a-t-il des observations sur ce dossier ? Bon, je mets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier suivant, Pascal Turano également.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit cette fois-ci d'autoriser à signer une convention avec la société Coultra pour l'exploitation d'un service de scooter en free-floating sur le territoire de la ville. Afin de développer les mobilités douces et d'encourager la mutualisation de l'usage de véhicules s'y rapportant, la commune de Charenton-le-Pont souhaite conclure une convention de mise à disposition du domaine public en vue de l'exploitation d'un service de partage de deux roues électriques. Les services de scooters électriques partagés sans station contribuent à l'essor de cette mobilité partagée plus propre et rejoignent l'action de la ville. Les opérateurs proposent en effet une tarification, une gamme de services et un maillage territorial répondant aux attentes du public. À ce jour, un opérateur privé, Coultra, récent acquéreur de CityScoot, est déjà présent sur le territoire communal et propose des scooters électriques en libre-service aux habitants. L'appel à manifestation d'intérêt publié par la ville définit un cadre partenarial pour ce type d'occupation de domaine public. Lancé le 26 août dernier, cet appel à manifestation d'intérêt a permis de désigner l'Oréal, l'opérateur Coultra Scooter, présente dans plusieurs villes européennes. La société propose une solution de transport durable, silencieuse et respectueuse de l'environnement, adaptée aux besoins des déplacements urbains de courte et moyenne distance. Créé en 2006 à Barcelone, Coultra fournit à ses utilisateurs un service de mobilité consistant à faciliter l'utilisation en libre-service sous forme de location courte durée de véhicules électriques de sa propre flotte, disponible à tout moment dans les zones géographiques définies. Le service fonctionne via une application mobile disponible gratuitement sur les principales plateformes qui permet aux usagers de localiser, réserver, déverrouiller et utiliser un scooter électrique en quelques instants. Ces véhicules sont accessibles 24 heures sur 24 et répartis dans des zones prédéfinies. Le stationnement se fait librement dans l'espace public autorisé, je précise bien autorisé, dans le respect des règles locales de stationnement. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer avec le prestataire Coultra la convention relative à l'exploitation d'un service de scooter électrique en free-floating sur le territoire communal. Je vous remercie.
Y a-t-il des remarques sur cette délibération, Monsieur Loïc Rambeau?
Oui, merci Monsieur le maire. Je tenais à souligner cette très bonne initiative. Et j'avais néanmoins deux questions sur ce sujet. La première question, c'est, étant donné que cette initiative vise à promouvoir les mobilités douces, on peut imaginer qu'a priori, les personnes qui vont utiliser ces scooters vont quitter la ville. Et donc, du coup, je m'interrogeais sur la pertinence de conclure ce type de contrat à l'échelle de la ville et non pas à l'échelle du territoire. Donc, je ne sais pas s'il existe des démarches qui sont menées, voire même à l'échelle carrément de la métropole. Ce serait sans doute plus pertinent. Et puis, la deuxième question, c'est sur le stationnement. Alors, moi, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui se passe quand les scooters, du coup, seront pas réservés et qui seront stationnés donc, dans les emplacements dédié à cet effet, vu qu'on a une tarification pour les deux roues motorisées à Charenton, du coup, qui paye en fait? Est-ce que c'est la société ou est-ce qu'il y a une exonération qui est mise en place?
Merci, monsieur Turano.
Non, il s'agit effectivement d'un contrat local. L'objectif est de créer un maillage. Bien évidemment, c'est un petit peu le principe des stations Vélib. Plus le maillage est important et plus le service se développe vers une banlieue un peu plus lointaine. Donc l'objectif, c'est de maintenir ce service à Charenton. Je veux dire que le précédent fournisseur de scooters en libre-service était sur le point d'arrêter son activité sur la ville car il y avait certains points qui étaient difficilement occupés. En tout cas, ils avaient du mal à obtenir ce maillage attendu. En ce qui concerne, ce contrat fait l'objet d'une redevance. Donc la ville percevra en contrepartie de ce service une redevance au même titre que la tarification qui est pratiquée pour les scooters, pour les deux roues motorisées. Donc il y a une tarification qui sera appliquée de 80 euros par véhicule et par an. C'est la tarification qui est pratiquée pour les abonnements aux deux roues motorisées. Et il y a une moyenne qui a été faite sur une durée assez longue, à savoir qu'on a compté plus ou moins 20 véhicules par jour présents en même temps. Donc ce qui fait une redevance qui sera versée à la ville de Charenton à hauteur de 1 600 euros, donc 80 euros fois 20 véhicules par jour. Pour ce qui concerne l'autre question, ça concerne le stationnement.
Qui règle, oui. Qui paye, en fait.
Oui, qui paye. Alors, donc, ce sont l'abonné. L'abonné paye la location et est redevable des contraventions éventuelles lorsque le véhicule est mal garé. Donc, c'est l'abonné qui est responsable de lorsque le véhicule est mal garé, s'il y a une contravention qui est dressée, c'est l'abonné qui en est responsable.
Merci. Je propose donc de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Dossier suivant, Relia Girard.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, depuis plusieurs années, la ville de Charenton mène une politique active en faveur de la transition écologique, en agissant notamment pour la végétalisation des espaces urbains, la lutte contre les îlots de chaleur ou encore l'adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, la cour de l'école élémentaire Pasteur a fait l'objet d'une requalification écologique. Environ 30% de sa surface a été déminéralisée et une végétation diversifiée a été implantée, accompagnée de revêtements perméables. Des aménagements complémentaires ont également été mis en place, notamment un traitement acoustique du plafond du préau, l'application d'un revêtement technique isolant sur les surfaces imperméables restantes et l'installation de structures sportives et ludiques. Ce projet, issu d'une démarche participative engagée au sein du conseil de quartier Pasteur en 2022 et enrichi par une consultation des enfants de l'école, s'inscrit également dans les engagements de la ville dans le cadre du label Ville Amie des Enfants obtenu en partenariat avec l'UNICEF. Afin de contribuer au financement de cette opération d'un montant estimatif de 156 492 euros, la ville a sollicité le Fonds d'investissement métropolitain de la MGP et le dispositif création d'îlots de fraîcheur de la région Île-de-France. Ces démarches ont permis d'obtenir des subventions respectives de 13 509 euros et 31 366. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes afin de permettre à la ville de percevoir ses subventions. Je vous remercie, Monsieur le maire.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des remarques de votre part ? Non, je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Le point suivant sera présenté par Joël Mazur.
Oui, merci, monsieur le maire. Le Code du travail permet d'accorder des dérogations au repos hebdomadaire du dimanche pour les établissements de commerce de détail et les concessionnaires automobiles situés sur la commune. Une exception est prévue pour les commerces alimentaires de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés, pour lesquels il sera déduit du nombre maximal de 12 dimanches le nombre de jours fériés légaux travaillés dans l'année dans la limite de 3, ce qui porterait pour ces commerces le nombre maximum de dimanches à 9. Cette possibilité est donc accordée pour le maire par délibération du conseil municipal. Le nombre et la liste des dimanches supplémentaires doivent être arrêtés au 31 décembre 2025 pour l'année suivante et doivent également faire l'objet d'un avis conforme de la métropole du Grand Paris, avis qui sera rendu par délibération au conseil métropolitain du 12 décembre 2025. L'objet de la présente délibération est donc d'autoriser Monsieur le maire à accorder des dérogations au repos hebdomadaire du dimanche pour les établissements de commerce de détail et les concessionnaires automobiles situés sur la commune. Sur la délibération, vous avez la liste des dimanches demandés pour 2026 pour les commerces de grande distribution et les concessions automobiles. Merci de votre attention.
Merci. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Non, je mets donc aux voix qui votent contre. Qui s'abstient, unanimité. Voilà, nous arrivons au terme de l'ordre du jour des délibérations. Nous avons reçu des questions orales, à la fois du groupe de Mesdames Elarty, Gruber et Yango, d'une part, et de Monsieur Lécrambeau par ailleurs. Et donc, je vais laisser la parole au groupe de Mesdames et l'article Hubert et Angot pour formuler leurs questions et j'y apporterai la réponse sans qu'il y ait d'échange à la suite, puisque je clôturerai ainsi ce sujet. Et nous ferons de même pour M. Rambaud. Donc la parole, à qui est la parole? Madame Elarty. Et donc je vais répondre, nous allons répondre point par point. Question après question.
Donc première question. Lors du conseil municipal du 21 mai 2025 a été votée une convention d'objectifs relative à la médiation sociale de proximité avec l'association charentonnaise Follow Your Dream. 4 mois plus tard, pouvez-vous nous dresser un état des lieux, des actions réellement menées par cette association et nous indiquer le nombre exact de jeunes bénéficiaires concernés? Merci, Monsieur le maire.
Voilà, donc sur cette question, c'est Madame Minard qui va répondre et ainsi porter à connaissance de l'ensemble du conseil municipal.
Alors, depuis le conseil municipal du 21 mai 2025, l'association Follow Your Dreams a déployé une médiation sociale de proximité avec des résultats positifs. L'association a commencé sa mission le 20 juin avec un médiateur permanent et un autre en renfort, assurant une présence continue pendant l'été. Ils sont intervenus régulièrement dans plusieurs quartiers, en particulier pour résoudre les problèmes de regroupement de jeunes à Victor Hugo. L'association a également proposé des tournois de football réunissant 3 soirs par semaine environ une cinquantaine de jeunes au stade Henri Guérin entre le 16 juillet et le 13 août. Contrairement à l'association précédente Optima, dont les prestations et leur suivi notoirement défaillants, l'action de Follow Your Dreams a été beaucoup plus efficace et constructive. Leur travail régulier et bien ancré dans la ville a permis de restaurer un dialogue entre jeunes et riverains. La municipalité salue l'investissement de Follow Your Dreams et souhaite soutenir son développement. Je vous remercie.
Madame Elarty, pour la question suivante.
Je voudrais juste apporter un complément d'information par rapport à la première question, si vous me le permettez, monsieur le maire.
Madame, la réponse vous a été apportée, nous en resterons là. Si vous avez l'occasion, lors d'une prochaine séance sur ces sujets, de les aborder, ce sera l'occasion.
Vous êtes maître à bord, donc je m'incline, pas de problème. Je passe à la deuxième question, monsieur le maire.
Deuxième question, madame Elarty.
Alors, courant août 2025, votre premier adjoint a rencontré les habitants du secteur Victor Hugo, Schumann, les deux. Pouvez-vous nous transmettre un retour détaillé de cette rencontre et surtout préciser quelles mesures concrètes ont été prises à la suite de leurs préoccupations exprimées et qui sont toujours exprimées récemment, même après l'échange? Donc les habitants, c'est pour ça que nous indiquons que les habitants attendent des réponses et non de simples promesses. Ce qu'ils ont eu effectivement lors de cette réunion, ils ont bien été écoutés, mais ils considèrent toujours, il n'y a qu'à voir un peu les réseaux sociaux, il n'y a toujours pas d'action vraiment effective, à part quelques rondes de la police municipale. Mais le problème reste toujours présent.
Alors la réponse sera apportée par Monsieur Pascal Turano.
Je dirais en introduction que la dernière phrase que vous ajoutez par rapport à la question écrite est votre propre jugement. Donc, au début de l'été 2025, le quartier Victor Hugo Schumann a connu quelques troubles liés à des regroupements de jeunes, notamment autour de la fontaine du parc Emmaüs. La municipalité a rapidement réagi en coordonnant des interventions de sécurité et de médiation. Le 1er août, notre collègue Madame Muriel Minard et moi-même avons effectivement rencontré une cinquantaine de riverains pour échanger sur les actions menées. De plus, un médiateur de l'association Follow Your Dreams est venu se présenter auprès de ces mêmes riverains et des commerçants. Ces initiatives ont permis d'apaiser la situation grâce à la coopération avec la police nationale et municipale, ainsi qu'à des patrouilles régulières et à l'utilisation de la vidéoprotection. La ville a également travaillé avec les bailleurs sociaux pour des solutions à long terme. Les efforts conjoints ont abouti à une amélioration de la situation
et les habitants ont apprécié cette approche proactive et concertée pour restaurer la tranquillité du quartier.
Merci. La troisième question, Madame Elarty.
Alors, la troisième question concerne un tout autre sujet. En préambule, je précise que nous avons indiqué effectivement juillet dernier, puisque nous avons investigué, on est allé à la source, on s'est renseigné auprès de sources officielles, et nous savons qu'effectivement, des familles palestiniennes étaient présentes sur le territoire charentonnais depuis juillet. Donc, elles avaient été accueillies dans le cadre d'une initiative humanitaire. Et vous indiquez dans votre communiqué du 15 septembre que ces personnes étaient présentes au mois d'août et que ni la préfecture ni vous-même n'avez été informés préalablement. Ce qui nous laisse penser qu'il y a quand même une incohérence administrative, puisque même si on le sait pertinemment, lorsqu'on veut imposer, lorsqu'il y a des réfugiés ou il y a des étrangers qui viennent pour des raisons humanitaires ou autres, on vous l'impose, ça c'est sûr, mais il faut savoir qu'on vous informe. Ça c'est la règle, ça a été le cas pour les Afghans, ça a été le cas pour les Syriens, ça a été le cas pour les Ukrainiens. On a un peu de mal à penser que ça n'a pas été le cas pour une dizaine de familles palestiniennes. Cette décision relevée exclusivement, vous avez indiqué, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que de l'association France Horizon. Or, il est avéré que des échanges auraient eu lieu entre la ville et France Horizon. Par ailleurs, l'invocation de décisions de justice, qui pour nous sont vraiment sans lien avec l'affaire, traduit une volonté de détourner le débat sur la question principale et qui concerne et qui intéresse tous les Charentonnais. Monsieur le maire, étiez-vous informé, oui ou non? Donc nous, pour nous, c'est vraiment de dire, on ne cherche pas à ce que vous attaquiez, à ce que vous fassiez des attaques personnelles, ça c'est pas notre problème avec un élu de l'opposition. Mais pour nous, vous avez essayé de détourner le débat sur la question principale. Étiez-vous informé ou non de l'arrivée de ces personnes au sein de Charenton? Donc, je précise qu'en substituant l'argument judiciaire à la preuve actuelle, vous évitez la question centrale, donc à savoir, vous étiez au courant ou vous ne l'étiez pas. Et donc, on souhaite avoir des éléments venant attester l'absence totale d'informations préalables. Parce que pour nous, sans ces preuves, puisque vous savez investiguer et nous aussi on sait investiguer, vos déclarations apparaissent comme une tentative manifeste de vous défausser de vos responsabilités, laissant ainsi prospérer rumeurs, amalgames et discours de haine qui ont été très violents sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'était très très violent. Heureusement que l'autre partie n'a pas réagi parce que ça aurait été effectivement la guerre civile au sein de Charenton. La question se pose, si vous n'avez pas été informé, on a l'impression que, est-ce que la ville de Charenton est en pilotage automatique? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Merci, monsieur le maire.
Bien, voilà un propos qui n'est sans doute pas polémique. Alors, Madame Elarty, ou mesdames, plus exactement, puisque vous me saisissez à la faveur de votre groupe concernant la présence de deux familles palestiniennes entre le 15 août et le 15 septembre dans un hôtel de Charenton, dont je rappelle que les enfants étaient en France pour y être hospitalisés et suivre des soins. Ils ont été autorisés à quitter le territoire de Gaza avec l'aval du gouvernement israélien. Le communiqué de la ville, diffusé le 15 septembre, répond à l'intégralité de vos questionnements. J'ai saisi le préfet courant août de rumeurs qui circulaient dans la ville et sa réponse a été celle qui est portée à connaissance dans le communiqué et connue des Charentonnais. Le préfet n'était pas au courant. Et la réponse du ministère des Affaires étrangères, comme la réponse de France Horizon,
que je n'ai eu au téléphone que le 15 septembre. M'a confirmé, s'agissant de l'association France Horizon, qu'il ne faisait aucune démarche à la demande du ministère des Affaires étrangères, ni auprès du préfet, ni auprès des maires. Voilà la réponse, madame, que j'ai portée dans le communiqué, là encore, à la connaissance des Charentonnais. L'utilisation que je vois comme étant polémique à ce sujet, que vous tenez à faire et à relayer encore ce soir, est détestable à nos yeux. Plutôt que de tenter d'identifier des responsabilités sur cette initiative au sein de la ville ou de la préfecture, je vous invite plutôt, Madame Elarty, puisque vous déployez votre sourire qu'on connaît, qui en dit long, plutôt à rechercher celui ou ceux, y compris à travers les médias, qui sème le trouble à dessein dans cette ville, qui se plaise à cultiver la psychose et qui ainsi suscite des risques de tension au sein de notre population, comme à l'extérieur de la ville, sur fond de conflits israélo-palestiniens. Voilà ma réponse, mesdames. Bien, je vais donc à présent proposer à Loïc Rambaud de s'exprimer pour sa question orale.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, certaines associations nous ont récemment fait part de difficultés récurrentes dans leur capacité à obtenir la mise à disposition de salles collectives leur permettant de se réunir régulièrement pour la gestion de leurs affaires courantes. Alors, cette rareté, ou même absence parfois, de locaux adaptés aux associations est un problème qui perdure depuis de nombreuses années sur notre ville et qui pourrait largement entraver les possibilités de création de nouvelles associations ou même la pérennité de certaines associations. Pourriez-vous nous présenter donc les mesures que vous avez pu prendre depuis votre élection en tant que maire et comment vous prévoyez d'améliorer la situation dans les prochains mois, si nécessaire? Merci.
Bien, nous avons pris note de votre question. Et je voulais vous apporter les précisions suivantes concernant la mise à disposition des locaux municipaux au bénéfice des associations. Je voulais tout d'abord vous assurer, et je pense que ce point avait été abordé au moment de la délibération portant sur les subventions versées et les aides de toute nature proposées aux associations locales lors d'un conseil précédent. De ce point de vue, et au moins avec le concours direct et en proximité du service de la vie associative, tout, je crois, est mis en œuvre dans cette ville pour non seulement proposer aux associations un interlocuteur, mais au-delà de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, tâcher d'apporter des solutions lorsque des sollicitations émergent. De ce point de vue-là, c'est une politique que nous avons toujours développée, déployée au cours de ces dernières années. Bien entendu, ces propositions de locaux, ces créneaux horaires qui sont proposés au sein de nos locaux, le sont en vertu des capacités de nos équipements à les accueillir. Si nous évoquions ce soir la situation ou le cas de la Saltofolie, c'est un lieu central, c'est un lieu particulièrement utilisé, très sollicité par les associations de la ville pour y organiser différents événements, en particulier des assemblées générales ou des conférences. Conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, chaque association charentonnaise peut donc bénéficier, une fois par an, d'une mise à disposition gratuite de la salle Tofoli pour organiser notamment leur assemblée ou son assemblée générale. Des tarifs préférentiels s'appliquent également pour d'autres événements, comme ils sont indiqués dans la grille tarifaire pratiquée pour cette même salle communale. Néanmoins, nous envisageons prochainement d'apporter une évolution au règlement intérieur de location et de mise à disposition des salles, afin de permettre à chaque association charentonnaise de bénéficier d'une mise à disposition gratuite de la saltofolie une fois par an, quel que soit le type d'événement. En effet, certaines associations organisent leur assemblée générale dans d'autres lieux et aimeraient pouvoir utiliser le dispositif de gratuité annuel de la saltofolie pour un autre usage. Donc de ce point de vue-là, nous ferons évoluer le règlement intérieur en ce sens et pour y apporter davantage de souplesse. Je rappelle que Charenton compte un tissu associatif qui est dense, qui est actif. Le forum des associations en a été, je crois, l'illustration. Ça a été un véritable succès lors du premier dimanche de septembre, particulièrement, je crois, cette édition 2025, et je crois qu'on peut collectivement s'en réjouir. Nous avons aussi des échanges réguliers avec chaque représentant, comme ce fut le cas lors du dernier forum, comme je venais de le rappeler. Et si des difficultés ponctuelles, est-ce que c'est à travers votre question orale ce qu'il faut comprendre, si des difficultés ponctuelles peuvent parfois apparaître, je ne peux qu'inviter les acteurs associatifs, ou vous-même, mais pas là dans un débat, à nous alerter, à nous informer à cet égard, de sorte qu'on puisse apporter une attention particulière dans tel ou tel cas de figure, ou d'anticiper des sollicitations qui viendraient à apparaître ou à naître. L'objectif, c'est de veiller à une répartition équitable et efficace des créneaux qui sont disponibles. Mais je le rappelle, les sollicitations, les occupations plus exactement, au-delà des sollicitations, sont effectivement très étoffées, très développées au sein des locaux que nous mettons à disposition. Voilà ce que je pouvais vous indiquer là-dessus. En tout cas, le service de la vie associative sous la houlette de notre collaboratrice Isabelle Vandenberg et de son collaborateur sont tout particulièrement vigilants, comme le sont les secteurs respectifs et les élus en charge des secteurs respectifs en interface avec les responsables associatifs. Je voudrais ici profiter de cette question orale pour remercier à nouveau l'ensemble des présidentes et présidentes d'associations pour le travail remarquable qui est effectué tout au long de l'année au bénéfice, au profit de tous les Charentonnais, quel que soit leur âge, quelles que soient les disciplines qu'ils peuvent ainsi pratiquer dans ce cadre du tissu associatif qui, je crois, fait honneur à notre collectivité. Voilà pour cette partie des questions orales. Je voulais enfin vous apporter deux informations à caractère actualité judiciaire ou point des dossiers judiciaires. Le premier qui concerne notre collègue Monsieur Sherman. Je rappelle que depuis qu'il a été effectivement exclu de la majorité municipale en juin 2023, pour des positions et des propos inadmissibles, M. Sherman a multiplié les calomnies. Il a aussi fait preuve d'outrage, de mensonges, de diffamations en tout genre, d'attaques personnelles et familiales à l'égard du maire et de quelques membres de la majorité municipale. C'est un rappel, ce sont des faits. Ces propos, tenus de multiples façons et en différents lieux, nous ont conduit, comme vous le savez, à saisir la justice. C'est en raison de ce contexte, suscité par ce même élu, que notre Assemblée délibérante a été amenée à voter l'octroi de protection fonctionnelle à mon égard et à l'égard de Pascal Turano, Benoît Gaillac et Jean-Marc Bocara. Je vous informe officiellement, et ce sera donc porté au procès-verbal de cette séance, que ce conseiller municipal a été condamné en première instance devant la chambre du tribunal correctionnel de Créteil le 2 juillet dernier, condamné pour diffamation à la suite des diverses attaques contre des élus de la majorité que je viens de reciter. Puis il a été à nouveau condamné le 24 juillet dernier, cette fois-ci par le tribunal de proximité de Charenton, à la cour de l'hôtel de ville ici, pour atteinte à la vie privée du premier adjoint. Ça, c'est la première actualité judiciaire que je voulais vous livrer, en lien avec les dispositifs de protection fonctionnelle qui nous ont été accordés par le conseil municipal. Non pas à l'unanimité, je le rappelle, mais à la majorité d'un certain nombre de ses membres. Enfin, concernant l'affaire judiciaire porte sur le terrain qui avait été cédé à Maison Alfort dans le cadre d'une promotion immobilière et qui concerne Jean-Marie Bretillon, l'ancien maire de Charenton. Je voudrais ici vous indiquer au conseil municipal que le 3 décembre dernier, dans cette enceinte en conseil municipal, le conseil municipal de Charenton-le-Pont a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à l'ancien maire de Charenton, estimant que la condamnation dont il est l'objet pour prise illégale d'intérêt constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. Monsieur Bretillon a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Melun pour contester la décision du conseil municipal. Il demande au juge administratif d'enjoindre la commune à lui accorder la protection fonctionnelle afin que ses frais de justice soient pris en charge par la ville de Charenton. Bien entendu, j'irai avec l'avocat ou les avocats de la ville défendre les intérêts de la ville de Charenton et de ses concitoyens devant le tribunal administratif de Melun pour défendre la délibération qui a été votée au conseil municipal. Voici les points d'actualité judiciaire que je souhaitais porter à votre connaissance. Et pour terminer sur un sujet beaucoup plus sympathique, je voulais vous informer que la ville de Charenton a décroché la première place au palmarès des villes qui ont déployé un plan vélo, déployé des pistes cyclables dans leur ville. Et donc la ville de Charenton a décroché la première place au titre du baromètre des usagères et usagers de la bicyclette, c'est-à-dire la FUB en l'occurrence, la Fédération des usagers et usagères de la bicyclette, a décerné la première place dans le cadre d'une large enquête et de ce baromètre il y a quelques jours, il y a 48 heures je crois, et donc place la ville de Charenton en première position des villes de la métropole du Grand Paris pour saluer le déploiement de son plan vélo. Et je crois que nous sommes situés en 7e ou 8e position à l'échelle de la région Île-de-France, qui compte de mémoire 512 communes. Je crois qu'on peut s'en féliciter. C'est aussi cela, l'évolution naturelle des villes vers ce qu'on appelle l'intermobilité au sein d'une collectivité pour encourager l'usage du vélo quand c'est possible plutôt que l'usage des voitures individuelles. Voilà ce que je pouvais vous indiquer. Et peut-être puis-je aussi proposer, même si je ne lui en ai pas parlé, mais à Fabien Benoît de nous dire un très court mot sur l'association que nous avons accueillie ici à l'Hôtel de Ville aujourd'hui même.
Fabien Benoît, oui.
Merci, Monsieur le maire. Alors oui, effectivement, nous nous sommes réunis depuis ce matin dans cette salle pour un séminaire de Décider Ensemble, qui est la principale think tank, association en charge de la démocratie participative en France. Donc nous avons été très honorés. Évidemment, je précise que c'est l'association qui est venue à ses frais, hein, mais qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici, avec des élus de tout le territoire, La Rochelle, Mulhouse, Lyon, avec des problématiques assez variées. L'objectif était de se projeter sur les prochaines années, voir quelles perspectives on pouvait proposer, notamment aux élus en charge de la participation, mais pas que, hein, vous tous, on est tous concernés, je dirais, by design par ces sujets. J'espère vraiment que de plus en plus, dès la jeunesse des projets, on va intégrer cette dimension pour gagner du temps, faire des gains financiers, faire des gains financiers et répondre au maximum au bien-être de nos citoyens, à la satisfaction de tout le monde, et valoriser ce qui est fait par les services, par vous élus, et qui quelquefois ne se sait pas assez. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir aussi des représentants du monde du domaine des entreprises privées, publiques, EDF, Natran, SNCF Réseau, qui ont aussi beaucoup de sujets en lien avec notre ville. Et donc, ils remercient la ville pour leur accueil ici. On a pas mal phosphoré, on a pas mal d'idées en termes de formation des élus, en termes de méthodologie projet pour les agents, et en termes d'associations encore plus importantes, des citoyens à bon escient. On n'a pas vocation à faire tout le temps de la co-construction pour tout, ça ne s'y prête pas toujours en termes de timing, de budget, mais on entend, et particulièrement avec les manifestations au niveau national, qu'il y a un besoin fort des citoyens d'être associés de plus en plus, et encore une fois, à bon escient, donc quand ça s'y prête et quand c'est pertinent.
Merci. Voilà, la séance est levée. Bonne soirée.
J'espère que ça va.